Éteignez les lumières. Fermez votre porte. Décrochez le téléphone. Nuit blanche, couleur 3.
On avait l'impression qu'il y avait un dôme de lumière au-dessus de la forêt.
Il faut qu'on cache cette information jusqu'à ce qu'on l'ait comprise. Pour ne pas la partager avec nos ennemis. Il faut savoir qu'il existe un risque que nos visiteurs nous poussent à nous battre d'abord entre nous pour qu'une seule fraction l'emporte sur les autres.
La peur. Je ne crois pas que ce soit un cercle. La nuit où le vaisseau s'est remis en marche, j'ai eu la plus forte et la plus claire de toutes mes visions.
On est jusqu'au bout. Ok, c'est parti. Parez à tirer. Il suffit de retenir jusqu'à ce que ce soit réglé, affirmatif. On se limite au tir d'avertissement. Chargez et abritez-vous. Soyez sur vos gardes. Évitez de faire des victimes.
Bonjour. Bonsoir. Bienvenue dans un nouvel épisode de Nuit Blanche. Nuit Blanche, un podcast pour ceux et celles qui préfèrent frémir que dormir. Nous allons une fois de plus élargir nos frontières concernant l'étrange, l'inexpliqué et le mystère en nous aventurant cette fois-ci sur le territoire à la fois passionnant et inquiétant de l'ufologie.
Personne n'aurait cru que notre monde était observé par des intelligences supérieures à la nôtre. Que, tandis que les hommes s'occupaient à leurs différentes activités, ils étaient observés et étudiés. D'aussi près qu'un savant peut étudier avec un microscope les créatures qui pullulent et se multiplient dans une goutte d'eau.
L'affaire que nous allons vous raconter est à tout point de vue pas comme les autres. Tout d'abord parce qu'il y a, chose rare, voire exceptionnelle, un enregistrement audio dont vous allez entendre quelques extraits. Parce qu'elle implique des militaires américains et même des hauts gradés. Parce qu'il y a un rapport détaillé envoyé juste après les faits au ministère britannique de la Défense et de nombreux témoignages de personnes encore vivantes. Cette affaire, qu'on appelle le Roswell britannique, c'est l'incident de la forêt de Rendlesham.
What is it?
We don't know, sir.
So you have a car, yes,
or no? Yeah, it's a strange, small red light. Looks to be out maybe a quarter to half mile, maybe further out.
Au micro, Anne Flamand, Michael Marquet, à la réalisation Un petit gris, Franck Pourpré.
C'était une technologie beaucoup plus évoluée que la nôtre.
L'histoire que nous vous racontons aujourd'hui se déroule en Angleterre, et plus particulièrement dans le comté du Suffolk. Le comté se situe au nord-est de Londres, sur la côte est de l'île. Hormis quelques villes, comme Ipswich, sa capitale, le Suffolk est un comté plutôt provincial. Il est peu peuplé et on y vient surtout en touriste pour profiter de ses paysages bucoliques. Il faut dire que le Suffolk est classé par le gouvernement britannique comme étant une « Area of Outstanding Natural Beauty », une zone à la beauté naturelle extraordinaire. Les côtes du Suffolk sont bordées de larges plages de sable jaune, baignées par les eaux froides de la mer du Nord. À intervalles réguliers, un phare se dresse sur la côte. Les villes maritimes donnent l'impression d'avoir été figées dans le temps. Les maisons traditionnelles, en briques et boiseries blanches, s'alignent sagement le long du littoral. Sur les plages, des cabines en bois de toutes les couleurs accueillent l'intimité des baigneurs qui souhaitent se changer à l'abri des regards, du moins quand la météo est propice à la baignade. Quand on s'éloigne de la côte, on découvre un paysage doux, dont le relief est à peine troublé par quelques collines. C'est une succession de marécages, de petits lacs bordés de roseaux et de cours d'eau sur lesquels on manœuvre des barques à fond plat. Ça et là, quelques cottages isolés se fondent dans le décor. On trouve aussi de très nombreuses forêts dans le Suffolk. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la forêt de Rendlesham, une étendue boisée de 15 km² où se succèdent les conifères, les feuillus, les landes et les marais. Particularité de cette forêt, elle est bordée par deux bases militaires, la base de Bentwaters au nord et la base de Woodbridge à l'ouest. Les deux bases ont été construites en 1943. On est en pleine Seconde Guerre mondiale et la Royal Air Force mène une intense campagne de bombardement contre l'Allemagne nazie. Mais ces raids ne sont pas sans danger et de nombreux avions britanniques sont touchés par les tirs de riposte des Allemands. Le Suffolk étant à vol de bombardier, la partie de la côte britannique la plus proche de l'Allemagne, les militaires y établissent deux bases pour faciliter le retour de leurs avions endommagés au combat. Woodbridge et Bentwaters servent de tête de pont à l'armée britannique jusqu'à la fin du conflit. De nos jours pourtant, l'intense activité militaire qui régnait à Bentwaters n'est plus qu'un lointain souvenir. La base est délaissée par l'armée britannique depuis 1993. Le site abrite aujourd'hui un musée consacré à la guerre froide et il sert aussi parfois de lieu de tournage pour le cinéma ou la télévision. On y a notamment filmé quelques scènes de Fast and Furious, épisode 6. Quant à sa voisine, la base de Woodbridge, elle a aussi été fermée quelque temps, de 1993 à 2006. C'est aujourd'hui un site d'entraînement utilisé par le corps de l'armée de l'air. Les baraquements de la base sont devenus le foyer du récemment formé régiment des ingénieurs, un régiment de spécialistes chargés de seconder les parachutistes de la Royal Air Force.
Que voyez-vous ? D'un point de vue géographique, cet endroit est difficilement repérable d'une voiture, pas d'un avion. On va être aveugle pour survoler et ne rien remarquer.
Pendant près de 4 décennies pourtant, les occupants des deux bases n'étaient pas britanniques, mais américains. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'avènement de la guerre froide, les Américains souhaitent renforcer leur présence en Europe. C'est tout naturellement que leurs alliés britanniques leur cèdent ces bases qui ne sont plus véritablement d'une grande nécessité stratégique à ce moment-là. Du début des années 50 à 1993, l'US Air Force prend ses quartiers aussi bien à Woodbridge qu'à Bentwaters. Elle y stationne plusieurs dizaines d'avions, des unités tactiques et plusieurs unités de réserve. L'US Air Force fait également de Woodbridge et Bentwaters des sites de haute sécurité. Elle y stocke un grand nombre d'armes en tout genre, dont plusieurs ogives nucléaires.
Je crois savoir que vous vous posez des questions sur notre cargaison.
J'aimerais bien lire le manifeste, en effet.
Là, ça va pas être possible.
Colonel, il y a beaucoup de gens dans ma ville qui vont vouloir savoir ce qui se passe.
De quelle ville s'agit-il ?
À l'orée des années 1980, les deux bases fonctionnent à plein régime. Il faut dire que la tension est à son comble entre les deux blocs de l'Est et de l'Ouest. Les militaires sont sur le qui-vive, ils scrutent avec inquiétude les progrès technologiques supposés des soviétiques.
Vous croyez que ça peut être russe ? Je ne nous le souhaite pas.
Dans ce contexte tendu, le sentiment principal qui habite n'importe quel militaire qui se respecte, c'est la paranoïa, et chaque incident est traité avec le plus grand sérieux.
Ce soir, le premier cliché des extraterrestres est devenu viral.
Nous sommes le 25 décembre 1980 au soir. Et l'ambiance est à la fois festive et détendue sur la base aérienne de Woodbridge, et en particulier au Oak Club, où l'on vient après son service se détendre et boire un verre. Mais malgré cette apparente décontraction, nous sommes à cette époque dans une période de forte tension sur le plan géopolitique entre les Américains et les Russes. Le niveau de sécurité est donc toujours très élevé, et il n'est pas question d'être un peu plus léger au niveau de la sécurité, même si c'est la période des fêtes de fin d'année.
Les unités d'escorte ne répondent pas, colonel.
Pourquoi ? Envoyez la sécurité.
Surtout qu'en ce mois de décembre 1980, on vient d'apprendre à la radio que les troupes soviétiques se massent à la frontière polonaise. Des gardes sont donc postés en permanence à différents points stratégiques de la base, de jour comme de nuit.
Ce n'était pas...
Qu'est-ce qui te rend si sûr de toi ?
Ce n'était pas, j'y crois pas. Il faut que tout le monde sache.
Vous devez prendre vos cachets, monsieur.
Je dois parler au chef d'état-major et vite.
Parmi ces jeunes soldats qui bravent l'humidité et le froid anglais, il y a un soldat de première classe d'à peine 19 ans. C'est John Burroughs. C'est sa toute première mission dans l'armée et loin de chez lui, loin des États-Unis. On lui a signé comme mission la surveillance de la porte Est. Parmi les autres agents patrouille ce soir-là, il y a les sergents Bud Stephens, Edward Cabansag et Jim Peniston.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël.
C'est
exactement ce qui se passe.
C'est calme dehors.
Jim est né en 1954 et s'est engagé dans l'armée de l'air américaine à l'âge de 19 ans. Il a occupé de nombreux postes clés et a été affecté à la garde d'élite du commandement aérien stratégique à Omaha, dans le Nebraska. À Woodbridge, il est l'officier principal en charge de la sécurité de la base.
C'était ma première mission. C'était la première fois que j'étais loin de chez moi. C'était un vrai défi, pas seulement d'être dans un autre pays, mais aussi d'apprendre un nouveau métier. À environ 2 heures du matin, mon superviseur m'a appelé par radio. Il voulait que je le retrouve. Parmi les tâches qui nous étaient assignées, il fallait régulièrement contrôler la porte Est.
Il est 2h30 du matin, au niveau du portail Est, lorsque Penniston et Stephens aperçoivent d'étranges lueurs qui descendent au cœur de la forêt de Rendlesham. Une forêt d'environ 15 km² et qui sépare la base de Woodbridge de sa sœur jumelle, la base de Bentwaters, qui appartient elle aussi à l'armée de l'air américaine depuis le 16 mars 1951.
Vous voyez ce que je vois ?
Je me suis avancé, j'ai regardé.
Voir quoi ? C'est quoi, d'après vous ?
Ces lumières qui se déplacent à présent entre les arbres sont intrigantes. Assez pour que notre soldat alerte la tour de contrôle de la base afin de savoir si un avion se serait par hasard écrasé ou aurait subi un atterrissage forcé à proximité.
Ici Burroughs à la porte Est, à vous. Transmettez Burroughs à la porte Est, à vous.
Ici Livingston, à vous.
Monsieur, nous avons un problème ici. Il y a quelque chose d'étrange, vous devriez venir y jeter un œil. À vous.
La réponse par radio ne se fait pas attendre et elle est négative.
C'est l'armée qui a allumé le feu. Je sais pas pourquoi, mais ils veulent que la ville soit déserte. Toute cette opération de l'armée, l'évacuation et tout ça, je le sens très mal.
Burroughs décide alors de contacter Jim Penniston, qui est dans le secteur 4, pour l'avertir qu'un incident de source inconnue est en cours non loin de la porte Est. Penniston, à la fois curieux et interloqué, saute dans une Jeep avec Edward Cabanzag pour rejoindre leurs deux collègues. Sur place, les quatre soldats observent attentivement entre les mailles du grillage cette étrange apparition nocturne.
Quel est le problème ?
Il se passe quelque chose dans cette forêt.
Ils s'aperçoivent, à environ 2 km de distance, des lumières qui clignotent. Certaines sont blanches, d'autres bleutées. Elles dansent entre les arbres sans faire de bruit.
On avait l'impression qu'il y avait un dôme de lumière au-dessus de la forêt.
Après quelques minutes d'observation, les lumières gagnent en intensité et forment à présent comme un dôme de lumière au-dessus de la vaste étendue de conifères et de feuillus. Après quelques instants d'hésitation, Burroughs décide qu'il faut aller voir sur place ce qu'il se passe pour des raisons de sécurité. Il demande la permission par radio de sortir de la base au centre de sécurité. Permission accordée. Pour éviter un incident diplomatique avec les Anglais, il est convenu que le sergent Stephens reste à la porte avec les armes à feu de ses camarades. Ils ne garderont sur eux que leur radio et des lampes torches. Burroughs pousse la lourde et longue porte métallique afin que la Jeep puisse sortir et s'enfoncer dans la forêt de Rendlesham.
Je pensais que c'était une menace pour la sécurité. J'essayais de trouver une explication rationnelle à ce que je voyais.
veux-tu faire?
On continue à pied.
Et c'est là où la route s'arrête que les ennuis commencent. Burroughs, Penniston et Cabin Sag descendent du véhicule. Personne n'est rassuré, mais interdiction de le montrer quand on est soldat. Par mesure de sécurité, Penniston ordonne à Cabin Sag de rester près du véhicule pour servir de relais de communication radio entre eux et le centre de contrôle de sécurité. C'est donc seul que Penniston et Burroughs s'enfoncent au cœur de la sombre et mystérieuse forêt. Burroughs avance, la boule au ventre. Il entend les animaux de la ferme d'à côté qui semblent anormalement agités. Il y a aussi des bruits étranges, un peu comme une femme en train de crier. Le contact visuel est toujours là. Les étranges lumières continuent de se déplacer entre les arbres. Les mouvements sont lents et la chorégraphie désordonnée.
Sergent Penniston pour la base, à vous.
On a tout de suite commencé à avoir des problèmes avec nos radios.
Sergent Penniston pour la base, à vous. Je ne recevais aucune réponse du centre de contrôle. Elle est morte.
À ce stade du récit, il est important de vous dire que la suite des événements ne sera pas unique, mais multiple, car les témoins présents sur place auront des avis divergents sur ce qu'ils vont rencontrer dans la forêt de Rendlesham pendant cette nuit du 25 au 26 décembre 1980. Nous reviendrons d'ailleurs plus tard sur ces contradictions et désaccords, en examinant soigneusement toutes les dépositions et confessions faites par les différents protagonistes de l'incident de Rendlesham. Mais pour le moment, nous allons nous focaliser sur le récit de Burroughs et de Penniston, qui est le plus âgé et le plus gradé de cette petite troupe d'expédition nocturne, partie à la chasse aux lumières. Les hommes avancent dans la forêt et perdent le contact visuel avec la Jeep. Soudain, à l'abord d'une clairière, un bruit déchire la nuit. Quelque chose vient de heurter le sol à quelques mètres des soldats qui se jettent à terre pensant à une explosion. Le cœur battant, dans la pénombre, Penniston et Burroughs découvrent à quelques mètres, juste devant eux, un objet de forme triangulaire. Quelque chose de totalement inédit et que nos hommes n'ont jamais rencontré par le passé. Ce n'est pas un avion. Ce n'est pas un hélicoptère, ni un débris de satellite ou de météorite.
Il semblerait qu'il y ait eu un crash pour la base.
Ça ne me dit rien. Ça ne vient pas de chez nous. J'aurais été prévenu par le Pentagone.
Nous n'en doutons pas. Vous êtes l'homme le mieux renseigné de l'unité.
Après avoir repris ses esprits, Penniston observe que l'air est chargé en électricité statique. D'ailleurs, les communications radio s'en trouvent étrangement perturbées.
Juste que je trouve ça fréquent.
Vraiment ?
Attends.
On dit comme ça ? C'est la première fois.
C'est parti.
C'était pas la dernière.
T'es prêt? Je t'avais dit que ça marcherait. Ok, attends, je l'éteins maintenant.
À environ une dizaine de mètres de distance devant lui, il voit l'impensable. Un objet d'environ 2,70 m d'envergure et de 2 mètres de haut. Il est de forme triangulaire, avec une base légèrement plus large, ce qui lui donne grossièrement une allure de presse-agrumes. Il est de couleur noire et possède la brillance du vert. Il n'y a pas de réacteur, pas de rivet, ni de soudure. Il n'émet pas de bruit, il ne semble pas non plus y avoir de poste de pilotage.
15 minutes avant minuit.
À quel volume de radiation il faut qu'on s'attende?
Minime, ce n'est qu'une mesure de sécurité.
Est-ce qu'on aura un contact physique avec... Je suis la seule à avoir du mal à dire les extraterrestres.
Il y a une paroi, comme un mur de verre, on ne peut pas les toucher.
À quoi ils ressemblent?
Vous serez assez tôt, dépêchez-vous.
Le sergent Jim Penniston va passer plus de 45 minutes à observer sous tous les angles cette étrange apparition. Il sort sans geste brusque de sa poche un petit carnet et un stylo afin de prendre des notes. Voici ce qu'il écrit.
Objet de forme triangulaire. La partie supérieure produit principalement de la lumière blanche qui englobe la majeure partie de la partie haute de l'engin. Au centre, à gauche, une lumière bleuâtre et de l'autre côté, une autre de couleur rouge. Les lumières semblent être moulées comme faisant partie de l'extérieur de la structure. Elles sont lisses et semble se fondre progressivement dans le tissu de l'engin.
Oh, il y a quelque chose de marqué là. Regarde, ce serait pas de l'écriture égyptienne?
Ça m'étonnerait.
C'est peut-être du chinois.
Non, ils ne sont pas des caractères asiatiques. Tu te rends compte? Il se pourrait que tu sois le premier être humain à avoir vu une écriture venant d'un autre monde.
Mais ce n'est pas tout. Peniston va faire une autre découverte. Il y a des symboles gravés sur l'engin. Et ces symboles n'appartiennent apparemment pas à l'US Air Force ou à la NASA.
Avec une suffisance infinie, les hommes allaient de ci, de là, à travers la planète, confiants dans leur empire sur ce monde. Cependant, par-delà le gouffre de l'espace, des intellects vastes, froids et hostiles considéraient notre planète avec des yeux envieux.
Ces dessins ne ressemblent à rien de ce que Jim Peniston a déjà vu. Le militaire est comme face à des hiéroglyphes. Il sent bien que ces symboles signifient quelque chose, même s'il est incapable de dire quoi.
C'est quoi ce truc?
Un soutien visuel. Je ne serai jamais capable de reproduire leurs paroles, si toutefois c'en est. Mais il pourrait avoir une forme d'écriture qui pourrait servir à communiquer visuellement.
Peniston, qui a toujours son carnet à la main, consigne d'un trait maladroit et peu assuré les six symboles qu'il a devant les yeux. En haut du groupe de symboles, il y en a un grand, placé seul, de façon centrale. C'est un cercle dans lequel est inscrit un triangle équilatéral posé sur sa base. Au point de jonction entre l'angle inférieur droit du triangle et le cercle qui l'entoure, le trait s'épaissit pour former un disque, un peu comme si une source lumineuse prenait naissance au point de rencontre entre les deux formes géométriques.
Qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau symbole ou on le connaît déjà ?
Je sais pas. Je crois que c'est encore le symbole pour humain, avec une petite boucle à la fin. Je me demande si ça indique une question. J'en ai aucune idée.
En dessous de ce premier symbole, il y en a cinq autres, placés côte à côte sur la même ligne. Le symbole le plus à gauche fait penser à une enclume. C'est un rectangle surmonté d'un triangle renversé, dont la pointe disparaît dans le socle. Le deuxième symbole évoque un oiseau à long cou, aux formes minimalistes. Un petit rectangle posé à plat pour la tête, puis une longue tige qui fait penser à un cou, enfin un parallélépipède avec deux côtés en biais pour le corps.
Regarde, le crash de Roswell en 47. Eh ben, le fermier qui s'est trouvé en contact avec eux a dessiné le même cercle. Et chaque fois que j'interroge mes patients et que je leur montre ça, ils expriment absolument tous la même émotion.
La peur. Je ne crois pas que ce soit un cercle. La nuit où le vaisseau s'est remis en marche, j'ai eu la plus forte et la plus claire de toutes mes visions. Et j'ai dessiné ça.
À droite de l'oiseau, le troisième symbole ne ressemble à rien de tangible. Il se compose de trois parties. Tout en haut, un trait très fin dessiné à l'horizontale. Celui-ci surmonte immédiatement ce qui pourrait ressembler à un clou ou à une vis. Enfin, sous le clou, dans le même alignement, on trouve deux figures au trait épais en forme de T.
Observez cette section. Apparemment, ça parle du temps. Leur symbole du temps est... il est omniprésent. Alors c'est quoi ? Une formule pour voyager plus vite que la lumière ? Comment savoir ? Il y a trop de lacunes, rien n'est complet. Et puis j'ai mis le doigt dessus. Allez.
Le quatrième symbole pourrait représenter un petit personnage. En haut, un rectangle placé à la verticale pour la tête. Au milieu, deux points de chaque côté pour les mains. Et dans la partie basse, un V épais est posé à l'envers pour figurer un torse et des jambes écartés, posés sur le sol avec aplomb.
Je comprends rien. Quel est notre but sur Terre ?
Enfin, Peniston recopie avec application le dernier symbole de la ligne. C'est un rectangle surmonté d'un arc de cercle qui fait penser au trou d'une serrure. Une fois tous les pictogrammes recopiés, le sergent James Peniston tend la main vers les symboles et il est surpris de constater que la surface dans laquelle ils sont gravés émet de la chaleur.
Il y avait ce grand symbole.
I
D'un côté, j'étais curieux, mais j'étais aussi stupéfait.
L'idée lui traverse l'esprit que l'étrange vaisseau qu'il a devant lui est radioactif, ce qui n'est pas franchement fait pour le rassurer. Dans un sursaut d'audace, Peniston touche l'un des symboles de la main.
Quand je l'ai touché, c'était chaud.
Les pictogrammes s'illuminent sans prévenir, comme s'il avait appuyé sur un bouton sans s'en rendre compte.
J'ai pensé à de la radioactivité.
Surpris, effrayé, Peniston a un mouvement de recul.
C'était comme si j'avais appuyé sur un bouton. J'avais activé une technologie que je ne comprenais pas. J'avais peur. J'avais peur que ça explose.
Peniston et Burroughs ont peur que l'objet explose, mais ce n'est pas ce qui se produit. L'artefact émet une lumière blanche aveuglante, puis l'objet s'envole. Il disparaît, dans un claquement de doigts, dira plus tard le soldat John Burroughs. James Peniston inscrit deux mots supplémentaires dans son carnet de notes. Speed, impossible. Vitesse, impossible. Il range ensuite son carnet en lieu sûr, dans sa poche de poitrine.
Je le crois pas.
Vous enregistrez ?
Oui, colonel.
On l'upload en direct au camp de base.
C'est incroyable.
Désorienté, passablement sonné, Burroughs et Peniston appellent la base. Ils reçoivent l'ordre de rentrer et prennent à pied le chemin du retour. Pendant qu'ils marchent à travers les bois, tout se bouscule dans leur tête. À quoi viennent-ils d'assister ? Comment expliquer ce qu'ils ont vu ? Faut-il même qu'ils en parlent à leurs supérieurs, au risque de passer, au mieux pour des farceurs, au pire pour des mythomanes ?
Tirez-vous, putain, sortez de là !
Ne parlez pas de ce que vous avez fait. Sinon, vous... mourrez.
À 7h du matin, le 26 décembre 1980, Peniston est dans le bureau du colonel Ted Conrad, le commandant de la base de Bentwaters. Il doit lui faire son rapport. Peniston est assailli par le doute. Il sait qu'un rapport mentionnant sa rencontre avec un ovni signifierait la fin, pure et simple, de sa carrière militaire. Peniston décide alors de relater l'incident en utilisant des termes militaires. Il parle d'un appareil d'origine inconnue. Bizarrement, le colonel Conrad ne semble pas surpris par les déclarations de Peniston. Il ne lui demande même pas de déclaration écrite. Il se contente d'acquiescer et il le relève de son quart.
Un événement sans précédent dans notre histoire vient de se produire. La question de savoir si oui ou non nous sommes seuls dans l'univers vient d'avoir une réponse.
Nous sommes le vendredi 26 décembre 1980 et quelque chose vient de se passer. Quelque chose d'assez étrange et perturbant pour que la base de Bentwaters, qui se trouve seulement à quelques kilomètres de celle de Woodbridge, contacte la police locale à 4h11 du matin, d'après le chef de la police du Suffolk, car le lieu de l'incident se trouve hors de la base américaine, sur territoire anglais.
Il semblerait qu'il y ait eu un crash près de la base.
Ça ne me dit rien, ça ne vient pas de chez nous. J'aurais été prévenu par le Pentagone.
Nous n'en doutons pas. Vous êtes l'homme le mieux renseigné de l'unité.
Le message envoyé spécifie ceci. Nous observons des lumières insolites dans le ciel. Nous avons envoyé des soldats non armés pour enquêter. Nous pensons qu'il s'agit d'un ovni.
Comme on pouvait s'y attendre, les autorités locales essaient de comprendre ce qui s'est passé et aussi de vous aider.
On a la situation en main. On va tout remettre en ordre en un rien de temps.
Colonel, il n'y a rien dont je devrais être au courant ?
Rien qui me vienne à l'esprit, chéri Patouin. Je crois savoir que vous vous posez des questions sur notre cargaison.
J'aimerais bien lire le manifeste, en effet.
Là, ça va pas être possible.
Colonel, il y a beaucoup de gens dans ma ville qui vont vouloir savoir ce qui se passe.
La police ne tarde pas à réagir et envoie sur place quelques policiers qui ne constatent rien de particulier. Les agents indiquent que les seules lumières visibles sont celles d'un phare, celui d'Orford Ness, qui se trouve à plus de 8 km en direction de l'est, et des faisceaux lumineux provenant d'une balise d'atterrissage de la base aérienne de Bentwaters.
Notre mission a été compromise. Le jour où nous avons décidé de partir tous les deux, personne ne nous trouverait.
Au petit matin, dans une forêt encore endormie et légèrement brumeuse, deux hommes parlent à voix basse. C'est Peniston et Burroughs. Ils ont pris l'initiative personnelle de revenir dans cette petite clairière près de la bordure orientale de la forêt afin de mener leur propre enquête sur ce qui vient quelques heures plus tôt de se passer. Ils savent qu'ils ont à présent besoin de preuves matérielles concernant leur rencontre. Leur carrière dans l'armée est en jeu.
Toute l'équipe est sur les dents pour déchiffrer ce que vous avez obtenu là-haut.
C'est en arrivant sur la prétendue zone d'atterrissage qu'il relève trois petites impressions sur le terrain en forme de triangle. Penniston décide qu'elles sont assez visibles pour en faire des moulages avec du plâtre, moulage qu'il garde encore aujourd'hui précieusement chez lui. Non loin de ces marques au sol, il observe d'autres traces plutôt surprenantes, comme des marques de brûlure et des branches cassées sur les arbres à proximité. Jamais la forêt de Rendlesham n'aura connu autant d'agitation et de visiteurs à cette époque de l'année. Il est 10h30 lorsqu'une patrouille de police se rend à nouveau sur les lieux de l'observation afin de mener de nouvelles investigations, car on ne prend pas à la légère une alerte même d'objets volants non identifiés en provenance d'une base militaire américaine. Les résultats ne tardent pas à tomber. Voici le rapport.
Il y avait trois marques dans la zone qui ne suivaient pas un schéma défini. Les empreintes faites par ces marques sont peu profondes et auraient pu être faites par un animal.
Bien dit que la créature est plus évoluée que n'importe lequel d'entre nous. Que l'espèce dont elle est issue est essentiellement souterraine.
Le rapport complet de la police du comté de Suffolk sur cette affaire est disponible en ligne depuis janvier 2005 dans le cadre de la loi britannique sur l'information. Il ne fait jamais mention d'OVNI, sans jamais remettre en cause la version des militaires. Il s'en tient juste à des observations et des suppositions on ne peut plus rationnelles.
Je leur ai expliqué que tout ce qu'elle veut, c'est reconstruire son vaisseau. Une nef faite de ses cubes, un alliage complexe à forme variable, un matériau remarquable que nous ne comprendrons jamais complètement. Elle tente désespérément de reconstituer son vaisseau depuis qu'il s'est écrasé ici en 58. Mais au lieu de lui fournir l'aide dont elle a besoin, nous l'avons retenue prisonnière.
À la base de Woodbridge, on est beaucoup plus inquiet. Penniston et Burroughs sont tellement bouleversés par ce qu'ils viennent de vivre qu'ils ont reçu une permission de 6 jours afin de se reposer. Penniston est vraiment bouleversé, on pourrait même dire traumatisé.
Quoi que vous fassiez ici, il faut que je l'explique à une assemblée de militaires dont la première et dernière question est « Est-ce qu'ils ont les moyens de s'en prendre à nous ?» Alors il faut m'en dire plus que ça.
L'affaire aurait pu en rester là, être étouffée dans l'œuf, et les militaires se préparaient gentiment mais sûrement au réveillon du 31 décembre. Mais un homme en a décidé autrement, et ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit du lieutenant-colonel Charles Holt. De par son physique et son allure, il incarne naturellement l'autorité et la discipline. C'est un colonel respectable et respecté qui a fait ses preuves au Vietnam et en Corée. Le colonel Holt a, en décembre 1980, 41 ans. Et c'est le commandant adjoint de la base américaine de Bentwaters qui se trouve au nord de la forêt de Rendlesham et à moins d'une dizaine de kilomètres de sa sœur jumelle de Woodbridge.
N'oubliez pas, il nous faut des réponses dès que possible. Ce qu'ils veulent, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, c'est notre priorité.
La distance est si proche que les militaires de Bentwaters, en service pendant la nuit du 25 au 26 décembre, ont pu suivre l'incident de la forêt par radio interposée. Les militaires en service ce soir-là sont J.D. Chandler et Fred Buran. Et ils sont allés eux aussi jusqu'à la lisière nord du bois pour rester en communication avec leurs collègues de Woodbridge, partis en exploration.
Oh bordel.
Chandler avait pour tâche de relayer l'information auprès du sergent Coffey du contrôle de sécurité centrale de Bentwaters. Dans la nuit du samedi 27 décembre 1980, le lieutenant-colonel Holt est à un dîner d'officiers organisé à la base aérienne de Woodbridge. Au cours du repas, une porte s'ouvre avec fracas. C'est le lieutenant Bruce Englund et il ne semble pas dans son état normal. Entre deux respirations saccadées, il crie affolé. L'OVNI est de retour.
Ok, doucement les gars, doucement.
Un groupe d'hommes vient tout juste de voir à nouveau des lumières inexpliquées dans la forêt. Le colonel Holt écourte sa visite et retourne immédiatement dans ses quartiers à Bentwaters pour se changer. Il veut se rendre à son tour dans la forêt de Rendlesham, bien décidé à mettre un terme à ce qu'il pense être alors des rumeurs d'OVNI sans fondement.
D'accord. On avance tous ensemble.
L'équipe est en place. On se met en route.
C'est le lieutenant Bruce Englund qui guide la petite patrouille de militaires et le colonel Holt vers la clairière. Marche dans les pas de Holt, John Burroughs, bien décidé à faire toute la lumière sur cette affaire. Il y a aussi le sergent Adrian Bustinza, le sergent Monroe Nevels, qui tient dans sa main un compteur Geiger qui ne cesse de crépiter. Il y a aussi le sergent Bobby Ball, qui s'est porté volontaire pour les accompagner. Le colonel Holt a emporté avec lui un petit enregistreur raccordé à un microphone. Il décrit sur la bande magnétique sa progression dans la forêt et son arrivée jusqu'au lieu supposé de l'atterrissage. Il y a comme des brûlures sur l'écorce des arbres. Le sergent Nevels prend des échantillons, des mesures et des photographies. Des relevés sont aussi faits avec une lunette de vision nocturne.
L'aiguille a commencé à s'affoler.
Il est passé de 7 à 10.
Très bien. Mettez-le près de cet arbre pour voir ce que ça dit.
Il est tard, très tard, lorsque le colonel Holt remarque quelque chose de très étrange. Des sons bizarres en provenance d'une ferme qui se trouve à quelques centaines de mètres. Les animaux semblent très agités, puis tout à coup, c'est le silence. C'est à ce moment précis qu'une lumière passe furtivement entre les arbres. Englund dit à voix basse.
Look, regardez. Over there. Là-bas.
La voilà à nouveau. Regardez tout droit, monsieur. La voilà.
Et tout d'un coup, la lumière est venue vers nous.
Entre excitation et stupéfaction, les deux militaires observent cet étrange balai lumineux pendant que l'enregistreur tourne toujours. Holt ordonne au reste de l'équipe d'éteindre les lampes de poche et de revenir à la lisière de la clairière qui semble être un meilleur poste d'observation. C'est donc dans un silence de mort que tout à coup, à environ 100 ou 200 mètres du site de la première observation, l'équipe regarde sans vouloir y croire un étrange feu rouge incandescent qui illumine les troncs d'arbres. Au fur et à mesure que l'apparition se rapproche, elle se transforme en une sorte d'œil géant dont le centre est sombre. Il émet par intermittence comme des étincelles de feu dans toutes les directions.
Cette lumière était... Je ne sais même pas comment la décrire.
Avec la lunette de vision nocturne, la lumière émise par l'œil est si intense qu'il est impossible de la fixer.
Ça ressemblait à... un œil.
À présent, devant les yeux des soldats, l'objet rougeoyant explose pour se rematérialiser en trois objets bien distincts qui ressemblent à des étoiles. Et le spectacle est loin d'être terminé. Il est 3 heures du matin quand le colonel Holt aperçoit des lumières stroboscopiques dans le ciel. Il dit au micro, c'est irréel. Oh, 3h20. Holt ordonne à la base de Bentwaters de contacter celle de Watton, qui est le centre de contrôle du trafic aérien de la région, pour voir s'ils aperçoivent quelque chose sur leur radar. La réponse est négative. En regardant vers le nord, Holt observe deux objets en forme de demi-lune qui dansent dans le ciel. Puis ces demi-lunes se transforment instantanément en cercle plein, comme s'il y avait une éclipse. Holt enregistre à nouveau ce qu'il voit et il ajoute
« Nous observons maintenant ce qui semble être un faisceau qui descend au sol. 3h30, les objets sont toujours dans le ciel, bien que celui du sud semble perdre un peu d'altitude. Nous retournons vers la base de Woodbridge. »
Mais ce n'est pas tout. Du côté de Bentwaters, l'impossible se produit aussi. Jim Carrey et Ike Barker, opérateurs radar, observent sur leurs instruments un objet se déplaçant à une vitesse inouïe. Une vitesse qu'aucun objet volant de l'époque ne peut atteindre et qu'ils estiment à environ 50 000 km/h. D'après l'écran, l'objet volant non identifié vient de parcourir plus de 200 km en à peine 8 secondes. Puis, tout à coup, la tour de contrôle est illuminée, comme en plein jour. Voici le témoignage de Ike Barker.
L'engin est passé au-dessus de la tour de contrôle, puis il s'est arrêté. Il y avait des lumières autour du centre, mais ce n'était pas comme des lumières allumées ou des lumières de navigation. Cela ressemblait plus à des hublots et on voyait la lumière sortir de l'intérieur. Il a plané un moment, a inversé sa trajectoire et est reparti à une vitesse élevée.
Je crois pas avoir besoin de vous dire que vous étiez en danger. Pour l'instant, il n'y a aucun signe d'irradiation. On va attendre de voir vos examens sanguins.
Il est 4 heures du matin. Le colonel Holt laisse un dernier message sur sa bande magnétique. Un objet plane toujours au-dessus de la base de Woodbridge, à environ 5 à 10 degrés de l'horizon. L'alerte est donnée et tout le monde retient son souffle, car l'OVNI est à présent en vol géostationnaire au-dessus du dépôt de stockage d'armes nucléaires. Et le problème, c'est qu'il y a ici plus de missiles nucléaires que partout ailleurs en Europe. L'OVNI projette tout à coup un faisceau lumineux vers la zone de stockage, comme s'il voulait scanner l'endroit. Les militaires pensent vivre leurs derniers instants quand l'objet décide de disparaître à une vitesse supersonique. La nuit redevient noire, et ce soir-là, personne ne trouvera le sommeil à Woodbridge.
Qui êtes-vous ?
Voici ce qu'a déclaré le colonel Charles Holt lors d'une conférence de presse à Washington, D.C. en 2007. Je ne sais pas ce que nous avons vu, mais je sais que c'était sous le contrôle d'une intelligence.
Qui d'autre est au courant?
Le CETI au Nouveau-Mexique a identifié le signal, mais ils sont encore plus perplexes que nous, général. Excusez-moi. Major?
Oui, commandant.
La réception radar est très mauvaise, mais nous avons capté cette image. Et nous estimons qu'il a un diamètre de plus de 550 km et un volume d'environ un quart de la taille de notre Lune.
Qu'est-ce que c'est? Un météore?
Non, général.
Non, absolument pas.
Comment le savez-vous?
Eh bien, général, il ralentit.
Il quoi?
Il ralentit, général.
Deux semaines après avoir assisté à l'étrange ballet de lumière dans la forêt de Rendlesham, le lieutenant-colonel Charles Holt est assis à son bureau de la base aérienne de Bentwaters. Il s'astreint à rédiger un rapport destiné au ministère britannique de la Défense afin de l'informer des événements survenus en ce mois de décembre 1980.
En fait, nous verrons de plus en plus souvent ces visiteurs venus de l'espace. Je crois qu'avant longtemps, cette vieille controverse n'aura plus de raison d'être, car dans la presse et à la télévision des preuves concrètes et irréfutables que les vaisseaux spatiaux sont bien réels et qu'il ne peut s'agir d'engins fabriqués dans les studios de cinéma.
Le rapport final, baptisé Unexplained Lights, lumière inexpliquée, est daté du 13 janvier 1981. Il est bref, il tient sur à peine une page recto dactylographiée. Ce rapport a été rendu public en 1983 au nom du US Freedom of Information Act à la demande de Robert Todd du groupe de pression des Citizens Against UFO Secrecy, les citoyens contre les secrets concernant des ovnis.
Ces apparitions, pour le moins suspectes, ne peuvent en aucun cas être liées à des essais d'armement que mènerait en secret l'armée des États-Unis. Nous n'avons rien à cacher.
Ce document est considéré comme étant un élément de preuve indéniable, attestant la véracité des événements qui se sont produits à Rendlesham. Pourtant, son examen détaillé pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses.
Général, vous êtes devenu fou, quoi?
Pardon, vous savez très bien de quoi je parle. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas le 1er avril. Quel est le crétin qui expédie ce communiqué insensé?
Dans le premier paragraphe, Charles Holt rapporte les faits qui se sont produits pendant la première nuit d'observation d'OVNI, soit la nuit du 25 au 26 décembre 1980. Or, le lieutenant-colonel mentionne la mauvaise date dans son rapport. Il parle de la nuit du 26 au 27. Est-ce parce qu'il a rédigé son rapport 2 semaines après les événements et que sa mémoire lui fait défaut? On penserait pourtant que des événements aussi marquants soient inscrits de façon indélébile dans sa mémoire. Holt n'a pas assisté aux événements de la première nuit. Il ne peut donc se baser que sur le témoignage des 5 hommes qui ont vécu l'incident en direct, que ce soit leur déclaration écrite ou les entretiens qu'il a eus avec eux par la suite. Et là, il se heurte à un problème de taille. Tous les témoignages ne racontent pas la même chose.
Il y a des débris éparpillés un peu partout. Je n'avais jamais vu ça. En général ?
Major, nous avons fait venir la presse. Vous n'ouvrez pas la bouche. Je répondrai moi-même aux questions. Ai-je été clair ?
Affirmatif.
Pour se faire sa propre idée, on peut consulter le scan des déclarations originales des soldats Peniston, Cabansag, Burroughs, Chandler et Boran sur le site que l'écrivain et astronome Ian Readpass consacre à l'affaire de Rendlesham. L'étude de ces feuillets, dûment dactylographiés, datés et signés, nous renseigne un peu mieux sur la façon dont chacun de ces hommes a vécu les événements de la nuit du 26 décembre 1980.
D'après les informations qu'on nous a données, même Los Alamos n'expérimente pas ce genre d'appareil. Vous avez la chance d'être tenu au courant, nous, on ne nous dit rien. Comprenez pas.
Bon, d'accord. Est-ce un engin soviétique ?
Non, ça m'étonnerait que ce soit russe.
Chandler et Boran ne sont pas allés dans la forêt. Ils sont restés près de la base de Bentwaters pour gérer les communications. Dans leur déclaration, ils ne disent même pas avoir vu les fameuses lumières. Ils se contentent de rapporter que Peniston, lui, en a vu. Et que, avec Burroughs et Cabansag, il s'est rendu sur place pour des investigations plus poussées. Les choses se compliquent quand on s'intéresse au rapport des 3 soldats qui se sont rendus dans les bois. Si tous confirment avoir vu d'étranges sources lumineuses, seul Jim Peniston affirme avoir vu un objet métallique posé au sol. Il est d'ailleurs intéressant de noter que, dans sa déposition initiale, Peniston affirme n'avoir jamais pu s'approcher à moins de 50 mètres de l'objet. C'est en totale contradiction avec ses déclarations ultérieures, lorsqu'il explique qu'il a passé 45 minutes à observer le vaisseau de près, prenant même le temps de recopier dans son carnet les symboles gravés sur l'un des côtés.
Et à partir de maintenant, vous ne parlerez de ça à personne, y compris à votre famille. Entendu ? Entendu.
Dans leur déclaration faite le lendemain de l'incident à leur supérieur, Burroughs et Cabansag ne parlent, eux, jamais de vaisseau, ni même d'objet. Burroughs parle d'une forme structurée qui émet de la lumière et se déplace entre les armes sans rien dire de plus précis. Ce n'est que bien plus tard, lors de ses différentes apparitions publiques, que Burroughs changera de version et qu'il dira qu'il a vu un objet décoller depuis la clairière.
Le terme soucoupe volante est utilisé systématiquement dès qu'il y a des lumières inhabituelles dans le ciel.
Nous avons pu expliquer ces apparitions comme étant de simples avions observés dans de mauvaises conditions. Ou bien encore, des phénomènes lumineux, électroniques ou météorologiques.
Quant à Cabansag, il évoque simplement une course à travers les bois, à la poursuite d'une source lumineuse que les hommes n'auraient finalement jamais rattrapée. Cette lumière n'a d'ailleurs à ses yeux rien de mystérieux. Cabansag parle, pour la décrire, de lumière émanant d'une balise.
Putain de merde, c'est quoi ce bordel ?
La version fournie par Cabansag sera souvent évoquée par ceux qui doutent qu'un ovni ait atterri dans le Suffolk. On s'en servira pour crédibiliser la thèse selon laquelle les 3 hommes se sont lancés à la poursuite d'un phare, comme nous vous l'expliquerons un peu plus loin.
Aucun des éléments que j'ai examinés ne permettent d'affirmer que nous avons affaire à des extraterrestres.
Non, nous ne pouvons absolument rien prouver.
Rassurez-vous, nous n'avons rien à cacher.
Quoi qu'il en soit, c'est la version de Peniston que le lieutenant-colonel Holt choisit de mettre dans son rapport. Il évoque un objet triangulaire, d'apparence métallique, d'environ 3 mètres à sa base et de 2 mètres de haut. À l'approche de la patrouille, l'objet se serait volatilisé.
Je ne sais pas ce que j'ai vu. Enfin, je sais ce que j'ai vu, mais je ne sais pas ce que c'était exactement.
La suite du rapport Holt est consacrée aux événements qu'il a lui-même vécu. Holt parle de la nuit du 29 décembre, mais là encore la date est fausse. Toutes les autres sources l'attestent, l'expédition de Holt dans la forêt a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 décembre.
Humain.
Le deuxième paragraphe du rapport Holt est consacré aux mesures de rayonnement bêta et gamma effectuées sur place, que Holt semble estimer anormaux. Il s'avérera par la suite que plusieurs experts en radioactivité ne trouveront rien d'anormal au niveau enregistré dans la forêt de Rendlesham. Pour l'heure, c'est une autre incohérence qui retient notre attention.
Et d'ailleurs, sur sa demande, je lui ai expédié quelques échantillons. Il doit les avoir reçus à l'heure qu'il est.
Faites venir tous les éléments ici, ainsi que l'officier qui les a trouvés.
Entendu, je vais vous envoyer quelqu'un. Non, aucun problème, on a commencé à les ramener.
Tandis que Holt mentionne dans son rapport écrit un pic de 0,1 milliron-gun, ce chiffre n'apparaît jamais sur les enregistrements audio qu'il a lui-même effectués la nuit du 28 décembre. Ceci paraît d'autant plus bizarre, étant donné que Holt a joint ces fameux enregistrements comme preuve à son rapport écrit. Il est donc curieux qu'il ne se soit pas réécouté ou qu'il se soit trompé aussi grossièrement. Enfin, dans le troisième et dernier paragraphe, Holt évoque l'apparition dans les bois des différents objets lumineux. D'abord la lumière rouge visible à travers les arbres, puis les trois objets ressemblant à des étoiles. Il conclut son rapport en précisant que de très nombreux individus ont été les témoins des activités évoquées dans les paragraphes 2 et 3.
Faites-les entrer.
Je comprends pas, qu'est-ce que c'est ?
C'est ce que vous avez trouvé.
Non. Mais non, voyons, c'est... Ça, c'est un ballon sonde. Aucun doute. Tenez, voici la partie inférieure qui réfléchit les ondes. C'est une vulgaire feuille d'aluminium froissé. Ça n'a rien d'exceptionnel.
C'est bien possible, Major, mais une chose est sûre. C'est ça que vous avez trouvé.
Après avoir soigneusement consigné ses observations, Holt joint à son rapport les enregistrements audio de la nuit du 28 décembre 1980. Il fait parvenir son rapport au ministère britannique de la Défense et en envoie une copie à la direction de l'US Air Force. Pourtant, à la réception du rapport Holt, ni les militaires américains, ni le ministère britannique de la Défense n'estiment que l'affaire mérite une quelconque attention. L'US Air Force classe le rapport sans suite et finira même par perdre sa propre copie.
Toutefois, je suis un peu surpris qu'un homme aussi expérimenté que le Major ait pu le prendre pour autre chose.
Du côté du ministère de la Défense britannique, on est plus pragmatique. Holt a attendu 2 semaines avant de relater l'incident et le ton de son rapport n'est guère alarmiste. Quoi qu'il ait vu cette nuit-là, il y a peu de chances que ce soit une menace pour la sécurité de la nation. On n'annonce pas une invasion en se présentant avec un balayage lumineux.
Je crois pas qu'ils aient parcouru 90 milliards d'années-lumière pour venir déclencher une guerre, ou même foutre le bordel.
Dans ces circonstances, le ministère de la Défense ne s'estime pas concerné. Le rapport Holt est souvent cité comme l'un des éléments de preuve tangibles, attestant de la présence d'OVNI à Rendlesham. On vient pourtant de voir que ce rapport est fortement sujet à caution.
Des nouvelles fraîches. Nous nous étions mis à croire aux Martiens. Eh bien, nous avions tort. Il semblerait que notre soucoupe volante ait du plomb dans l'aile.
Un autre élément de preuve a été lui aussi passablement malmené par ceux qui se passionnent pour ce cas. Il s'agit du fameux carnet de notes du sergent James Peniston, ce carnet à anneaux dans lequel il aurait consigné ses observations la nuit du 25 au 26 décembre 1980. Dans la plupart des reportages et interviews auxquels il a participé en lien avec cette affaire, Peniston a toujours affirmé qu'il avait rempli ce carnet sur les lieux mêmes de l'incident, alors qu'il se tenait debout au milieu de la forêt, juste à côté de l'étrange vaisseau. Cependant, l'examen de plusieurs éléments tente à faire douter de l'authenticité de ce fameux carnet.
C'est pourquoi l'information doit subir notre contrôle. Pensez un peu aux institutions religieuses. Qu'adviendrait-il si tout d'un coup tout le monde savait ?
Le carnet de Peniston apparaît plusieurs fois à l'écran dans différents documentaires consacrés à l'OVNI de Rendlesham. Sur les images, on voit les dates et heures indiquées en haut de la page du fameux carnet. 27 décembre 80, 12, double point, 20. Comme Holt, Peniston mentionne la mauvaise date. Toutes les autres sources concordent pour confirmer que les événements ont lieu dans la nuit du 25 au 26 décembre 1980 et non le lendemain, le 27.
Alors maintenant, vous dites que c'est la vérité ?
Oui, croyez-moi, c'est la bonne version. Je crois qu'il est temps de mettre les choses au clair.
Sur son blog, l'enquêteur Ian Whitpass s'interroge même sur le moment où Peniston commence à mentionner ce fameux carnet. Il est en effet très bizarre que Peniston ne mentionne pas son carnet ou ses notes lors de sa déposition initiale auprès du colonel Ted Conrad, le commandant de la base de Bentwaters. Mais ça peut s'expliquer, à la rigueur, par une volonté de ne pas trop en dire à ses supérieurs à propos de l'incident, pour ne pas mettre sa carrière en péril.
J'ai reçu des ordres, je les exécute, un soldat doit obéir au sang.
Parmi les camarades militaires de Peniston, aucun ne se souvient de ce fameux carnet, mis à part un homme, Richard Bertolino. Bertolino était garde de sécurité à Bentwaters. Il aurait partagé un trajet de bus avec Peniston le matin du 26 décembre. À cette occasion, Peniston lui aurait dessiné un croquis de ce qu'il a aperçu dans les bois, un objet en forme de diamant, avec des pieds en trépied. Mais Bertolino ne se souvient pas avoir vu d'autres notes à ce propos. Quant à ce fameux croquis dessiné dans le bus, il n'est plus jamais apparu ultérieurement.
C'est très dangereux. Si quelqu'un me demande si je vous ai parlé de ça, je n'irai, vous comprenez ?
Dans le cadre des reportages et des interviews autour de l'incident de Rendlesham, Peniston mentionnerait son carnet pour la première fois dans une interview pour Omni Magazine. La date de l'interview n'est pas mentionnée, mais elle est hébergée sur une page dont le copyright mentionne l'année 1996.
Et après ça, on nous demande d'avoir confiance en notre armée.
Deux ans plus tôt, en juillet 1994, Peniston accordait pourtant une longue interview à une chaîne de télévision anglaise pour une émission intitulée « Strange but True », étrange mais vrai, avec un point d'interrogation à la fin.
Dire que j'avais projeté d'inviter des martiens à cette émission pour savoir comment ils vivent, cela me paraît compromis. Remarquez, je dois avouer que je me sens un peu soulagé.
L'émission entière était consacrée aux événements de Rendlesham et accordait une large place au témoignage de Jim Peniston. Et bizarrement, il n'a, à cette occasion, fait aucune mention ni des croquis, ni des notes qu'il aurait pris le soir de l'événement.
Est-ce que les journalistes ont vu ça ?
Pas encore. Ne les montrez pas.
Tout ceci tend à jeter le doute sur cet élément de preuve soi-disant irréfutable. Mais malheureusement, l'authenticité du carnet de Peniston n'est jamais remise en question dans les différents documentaires tournés au sujet des événements.
Iriez-vous jusqu'à nier complètement l'existence des soucoupes volantes ?
Je vous répondrai en tant que militaire, mais aussi en tant qu'individu. La réponse est oui.
Pourtant, de nombreuses personnes affirment en avoir vu dans tout le pays. Comment expliquez-vous cela ?
Ce que vous avancez est inexact. Pas dans tout le pays.
Comme vous avez pu le constater, l'affaire de l'incident de Rendlesham est une affaire complexe. Très complexe. Une complexité qui va aller en s'intensifiant au fil des semaines, des mois puis des années, avec l'apparition de deux camps, ceux qui pensent qu'il s'agit bel et bien d'une apparition de type OVNI, et d'autres qui pensent qu'il s'agit d'autre chose, quelque chose de plus rationnel. Mais si ce n'est pas un objet volant non identifié, de quoi s'agit-il ?
J'apprends à l'instant que plusieurs objets du même type ont atterri à au moins 8 autres endroits tout autour du monde.
La première piste évoquée dès le début de l'affaire est celle proposée par la police du Suffolk. Ces lumières observées dans la forêt de Rendlesham sont celles du phare maritime d'Orfordness qui se situe à quelques kilomètres en direction de l'est. En 1980, ce phare était l'un des plus brillants du pays. Il était équipé d'une lampe à incandescence de 3 kW. Est-ce que les conditions atmosphériques pendant cette froide nuit de décembre, associées à des phénomènes d'illusion d'optique qui peuvent apparaître près d'un phare de forte puissance, auraient pu induire en erreur un colonel de l'armée américaine de 40 ans au point de le confondre avec une apparition d'OVNI ? C'est en tout cas une thèse souvent reprise pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas la seule, car comme nous l'avons mentionné, cette histoire est riche en rebondissements aussi surprenants qu'inattendus.
Jean, tu vois où ça nous met dans l'enquête ?
Si ce genre de choses arrive, c'est parce que je suis près du but.
Tu n'es près de rien. Quand regarderas-tu les choses en face ? Quand comprendras-tu que tu t'es fait avoir ?
Au cours de l'été 2003, un ancien policier de l'US Air Force à Woodbridge, Kevin Candé, prend la parole pour faire des révélations stupéfiantes sur l'incident de la forêt de Rendlesham. 22 ans après les faits, Candé affirme au Daily Mail et à la BBC que cette histoire d'OVNI n'est qu'un canular. Voici sa version des faits.
Il y avait ce type qui surveillait la porte S de la base et il était considéré comme un problème, car il voyait toujours des choses. J'ai donc décidé de lui faire une blague. J'ai collé sur les projecteurs de ma voiture de patrouille des lentilles rouges et vertes. J'ai ensuite tourné en rond dans le brouillard avec le haut-parleur en marche. Ce n'était donc pas un OVNI, mais une Plymouth Volare de 1979.
Mais cette explication a ses limites, car Condé ne se souvient pas de la date exacte de son canular, et il ne l'a fait, d'après ses souvenirs, qu'une seule fois, alors que les apparitions se sont déroulées sur deux nuits bien distinctes. Celle du 25 au 26 décembre et celle du 27 au 28 décembre. Notre policier a pris la parole en novembre 2010 sur la page Facebook gérée par Jim Peniston et John Burroughs. Voici ce qu'il dit. Ce qui est arrivé est un non-événement et les histoires se sont transformées au fil du temps. Si l'US Air Force n'a pas fait grand-chose à ce sujet, c'est parce qu'ils étaient révoltés que le colonel Holt soit assez fou pour prendre un groupe de soldats de la sécurité et les amener dans un tel désastre. Le commandement supérieur l'a soigneusement ignoré dans l'espoir qu'ils disparaissent tout simplement.
Les ovnis, c'est comme Dieu, ou l'idée d'une vie après la mort. C'est simplement une croyance à laquelle on s'accroche pour expliquer des choses qui nous semblent insensées. Un fantasme qui nous rend la vie plus agréable.
Qu'est-ce que tu racontes ? Les ovnis existent, autrefois tu le savais.
Il n'est pas le seul à parler d'un canular. En décembre 2018, le journaliste et conférencier à la Sheffield Hallam University, David Clark, décide de soutenir cette thèse de la farce. Mais pour lui, ce n'est pas une voiture de patrouille que les soldats américains ont aperçue dans la forêt, mais une mise en scène orchestrée par l'armée britannique. Après 3 années de recherche sur le sujet, David Clark affirme que c'est une histoire de vengeance qui est à l'origine de l'incident de Rendlesham. Tout commence lorsque des parachutistes anglais qui ont dévié de leur trajectoire initiale sont interceptés sur la base américaine. Ils sont arrêtés, interrogés et emprisonnés pendant 18 heures avant d'être enfin libérés.
Si vous entendez ce message, vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes comme vous. Il y a d'autres combattants. Nous sommes des militaires, nous sommes armés. Nous pouvons vous nourrir, vous protéger des contaminés.
C'est pas fini.
Notre position est le 42e barrage.
Pour laver cet affront, les forces britanniques ont imaginé un scénario d'atterrissage de soucoupes volantes à l'aide de fusées éclairantes, de cerfs-volants télécommandés et de ballons gonflés à l'hélium. Mais le colonel Ted Conrad, commandant à l'époque des faits des bases de Woodbridge et de Bentwaters, considère cette affirmation de farce comme invraisemblable, tout simplement pour des raisons de sécurité.
Vous avez entendu parler de ces ballons-bombes japonais ?
Oui, mais les ballons sont en papier de riz. Ils ne font que 9 mètres de diamètre. Ils n'éclatent pas à l'atterrissage, sauf si la bombe est restée accrochée. Dans ce cas, il y aurait trace de combustion.
Oui.
En septembre 2017, c'est le chercheur et ex-directeur adjoint du bureau de poste Russ Callaghan qui prend la parole lors d'une conférence ufologique organisée par le magazine The Outer Limits pour rendre ses conclusions sur le dossier de l'incident de Rendlesham. Pour lui, l'objet de forme triangulaire observé dans la petite clairière est en fait une capsule d'entraînement du 67e escadron de sauvetage de la base de Woodbridge. Cet escadron, ultra secret, aurait participé à la récupération des capsules utilisées lors des missions lunaires Apollo et, dans les années 80, à la récupération de capsules renvoyées sur Terre par des satellites espions.
Ces images proviennent de Hubble, une sorte de force qui déforme les anneaux de Saturne s'est manifestée.
Bon Dieu, c'est pas vrai.
Et notre base de défense ?
Détruite. Et si ce n'était que ça, mais la lune de Saturne semble s'être volatilisée.
Dans la nuit du 25 au 26 décembre, d'après Callaghan, l'escadron spécial aurait effectué un entraînement, mais il a rencontré des problèmes techniques. Le pilote de l'hélicoptère aurait donc été obligé de larguer la capsule dans la forêt de Rendlesham, qu'il aurait ensuite récupérée la nuit suivante. Mais problème, lorsque la police du Suffolk, ainsi que Peniston et Burroughs, sont revenus sur les lieux supposés de la rencontre au petit matin du 26 décembre, il n'y avait strictement plus rien à voir, à part des traces peu profondes et quelques branches cassées. De plus, sur les photos proposées par Callaghan, on aperçoit des capsules blanches, et non pas noires et brillantes comme du verre. Et elles n'ont pas d'inscription qui ressemble à des hiéroglyphes sur le côté.
Est-ce que ça vient du crash ?
Mais qui t'en a parlé ?
Ils l'ont annoncé à la radio et depuis, toute la ville ne parle que de ça.
Le mois suivant, soit en octobre 2017, c'est au tour d'Andrew Pike d'émettre une autre théorie. Andrew Pike est astrophysicien et écrivain. Il vient de sortir un livre sur l'incident de Rendlesham intitulé « The Rendlesham File ». Andrew Pike pense que les lumières étranges observées en décembre 1980 auraient pu être provoquées par un phénomène naturel connu sous le nom de foudre en boule ou foudre globulaire. Il s'agit d'un phénomène météorologique rare et qui, de par sa nature très dangereuse et imprévisible, n'a été que très peu étudié. Cette boule se présente sous la forme d'une sphère lumineuse d'une vingtaine de centimètres de diamètre. Elle apparaît lors d'un orage. Sa couleur est jaune, tirant vers le rouge, même si elle peut aussi avoir des reflets bleus, verts ou encore blancs. Elle est souvent accompagnée de crépitements ou d'un sifflement. Sa durée de vie est de quelques secondes. Elle peut rester immobile ou bien se déplacer horizontalement ou faire une rotation sur elle-même. En effet, la description de cette foudre en boule est assez proche de cet œil lumineux émettant des étincelles observé par le colonel Holt. Mais il ne fait pas mention sur la bande magnétique d'un orage ce soir-là. Orages qui sont de plus très rares en plein mois de décembre en Angleterre. Et à aucun moment, nous n'entendons le bruit du tonnerre sur l'enregistrement. Autre élément qui vient contredire cette théorie, une déclaration du colonel Ted Conrad, faite en 2010.
Personnellement, je crois, et je suis même intimement persuadé, que des civilisations évoluées existent quelque part dans l'immensité de l'univers qui nous entoure.
En 1980, c'est le commandant des deux bases, et il est sur place. Voici ce qu'il dit. C'était une nuit étincelante, clair, sans nuages et sans brouillard, avec un bon champ de vision dans toutes les directions.
Je veux voir le rapport.
Quel rapport ?
J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé pendant mon absence. J'ai aperçu des avions à Fort Worth qui arrivaient de chez vous, remplis de caisses, et personne ne me fera croire que c'était du linge sale. Je veux bien qu'on me fasse passer pour un imbécile, mais j'aimerais au moins qu'on me dise pourquoi. Je serais un bon soldat.
En ce qui concerne l'apparition de l'OVNI triangulaire qu'ont observé Peniston et Burroughs dans la nuit du 25 au 26 décembre 1980, Andrew Pike a aussi une explication que voici. Il s'agirait d'expériences aériennes secrètes menées par des militaires utilisant la technologie des micro-ondes.
Je n'ai pas de compte à vous rendre sur cette affaire. Je transmets directement mes rapports au Pentagone. C'est mon boulot. Que cela vous plaise ou non. C'est en la fermant que nous avons gagné la guerre. Si ce système ne vous convient pas, allez vous plaindre à Washington.
Mais cette proposition soulève de nouvelles questions auxquelles Pike ne répond pas dans son livre. S'agit-il d'une expérience de militaire anglais ou américain ? S'il s'agit d'une expérience anglaise, pourquoi l'avoir faite à proximité de deux bases américaines sensibles abritant un stock d'armes nucléaires ? Et s'il s'agit d'une expérience américaine, pourquoi le lieutenant-colonel Holt, adjoint du colonel Conrad, commandant des bases de Bentwaters et Woodbridge, n'était pas au courant ? Et pourquoi surtout ne pas avoir fait ses expériences dans le périmètre d'une des deux bases pour éviter tout incident avec les autorités britanniques ?
Mais je ne suis plus certaine de croire au début et aux fins. Il y a des jours qui ont défini ton histoire au-delà de ta vie. Comme le jour de leur arrivée.
Depuis près de 4 décennies, on assiste à une bataille entre ceux qui croient qu'un ovni a atterri dans les bois de Rendlesham et ceux qui n'y croient pas. Ce conflit se retrouve jusque dans les rangs des militaires eux-mêmes. On assiste, périodiquement, à l'émergence de nouveaux témoignages de personnes présentes sur les lieux en ce mois de décembre 1980, que ce soit pour confirmer ou infirmer la thèse de l'apparition d'un vaisseau d'origine inconnue. En 2016, un certain Steve Longero sort de sa réserve. À l'époque des événements, il était l'un des soldats chargés de la surveillance du dépôt d'armes sur la base de Woodbridge. Il affirme que dans la nuit du 28 décembre, toutes les alarmes du dépôt se sont déclenchées d'un seul coup. Par la suite, il s'est lui aussi rendu dans la forêt et a vu une lumière d'origine inconnue ressemblant à un œil et qui nous voyait entre les arbres. Pour lui, aucun doute possible, ce qu'il a vu était bien d'origine extraterrestre. En juillet 2019, c'est un autre vétéran, l'ancien sergent Michael Smith, qui témoigne lui aussi avoir vu des lumières non identifiées dans le Suffolk. À l'époque des faits, Michael Smith a 19 ans. C'est un membre du 81e escadron de police aérienne, stationné à la base de Woodbridge. environ un mois avant les fameux événements de Rendlesham, soit en novembre 1980, Smith est de garde de nuit. Il se trouve près de la porte Est et il est en train de soulager sa vessie. C'est alors qu'il aperçoit ce qu'il décrit comme une boule rougeoyante entre les arbres. D'après Smith, l'objet s'est arrêté juste en face de lui et est resté planté là, en lévitation à deux pieds du sol. Smith a eu la peur de sa vie. L'un de ces nouveaux témoignages les plus intéressants nous est fourni par Nigel Kerr. Contrairement à la plupart des protagonistes de cette histoire, Nigel Kerr n'est pas américain, mais britannique. C'est un ancien assistant contrôleur aérien de la Royal Air Force. De 1977 à 1990, il est stationné à la base aérienne de Watton, à une cinquantaine de miles au nord de la forêt de Rendlesham. Dans un documentaire tourné pour la chaîne National Geographic en 2012, Nigel Kerr raconte ce qu'il a observé sur son propre écran radar en décembre 1980.
Monsieur, je crois que vous devriez écouter ça.
Il ne se souvient pas du jour exact, seulement que c'était entre Noël et Nouvel An. Vers minuit, comme toutes les nuits, il est à son poste et scrute son écran. Lui et ses collègues reçoivent alors un appel du poste de commande de Bentwaters. Les militaires rapportent avoir observé des lumières très brillantes dans le ciel, entre 500 et 1000 pieds d'altitude, et ils veulent savoir si le radar des Britanniques corrobore leurs observations. Le job de Nigel Kerr, c'est de contrôler les mouvements militaires aériens de la région. Au moment de l'appel des Américains, son écran radar est désespérément ordinaire et n'affiche rien d'inhabituel. Mais Nigel Kerr est quelqu'un de consciencieux et il décide de pousser ses investigations plus loin. Il se reporte alors sur des équipements de détection plus puissants, le réseau radar de la Royal Air Force de Nitty's Head, le système de détection le plus performant du Royaume-Uni. Et là, un point lumineux apparaît sur l'écran de Nigel Kerr.
Monsieur, j'espère que c'est pas encore une saloperie d'avion russe.
Les gars du trafic aérien disent que le ciel est dégagé.
C'est du sérieux. Un signal radio venu d'un autre monde.
Bon, eh ben, vendons pas la peau de l'ours. Appelez-moi le centre spatial, ils pourraient être contents d'apprendre ça.
L'assistant contrôleur aérien et ses collègues laissent passer deux balayages. Le point lumineux est toujours là. Au troisième balayage, il disparaît. Il réapparaît au quatrième, avant de disparaître définitivement. Le ministère britannique de la Défense est catégorique et pour lui, les choses sont limpides. Aucune activité anormale n'a été détectée cette nuit-là, ni aucune autre entre Noël et Nouvel An. Nigel Kerr lui-même admet que les radars ne sont pas infaillibles et qu'ils montrent régulièrement des empreintes qui ne traduisent rien d'anormal, comme des ballons météo ou une volée d'oiseaux. Il trouve cependant l'apparition de cette empreinte troublante. En effet, ce qu'il a observé sur son propre écran se trouvait exactement aux coordonnées indiquées par les militaires de la base de Bentwaters.
Ça, c'est un ballon sombre, aucun doute. Tenez, voici là, à la partie inférieure qui réfléchit les ondes. C'est une vulgaire feuille d'aluminium français, ça n'a rien d'exceptionnel.
C'est bien possible, Major, mais une chose est sûre, c'est ça que vous avez trouvé. Et à partir de maintenant, vous ne parlerez de ça à personne, y compris à votre famille.
Le moment passe et Nigel Kerr oublie cette histoire. Après tout, ce n'était qu'une empreinte fugace qui ne traduit rien d'extraordinaire. Ce n'est qu'un an plus tard, quand l'histoire sort dans la presse, qu'il fait le lien entre ses propres observations radar et ce que la base de Bentwaters lui a demandé de vérifier cette nuit-là. Par peur du ridicule, pourtant, Nigel Kerr ne dira rien et gardera ses observations pour lui pendant près de 30 ans.
Je n'en ai pas vraiment parlé tant que j'étais dans l'armée. Je devais m'occuper de ma carrière et de ma famille. Je ne suis pas fier de ce que j'ai dû faire pour le couvrir. Mais je ne vais pas nier que quelque chose que j'ai vu s'est passé. Plus maintenant.
Autre rebondissement dans l'affaire de Rendlesham, mais juridico-financier cette fois-ci. Après de longues années de bataille devant les tribunaux, le soldat John Burroughs a finalement obtenu, en 2015, que l'armée lui rembourse ses frais médicaux.
De toute façon, il n'y a que deux possibilités, pas vrai? Ou c'est vraiment une soucoupe volante, ou ça l'est pas. Si c'en est une, on me verse mes 3000 dollars. Et si c'en est pas une, comme vous dites, bah c'est simple,
Je touche pas en...
John Burroughs aurait commencé à ressentir des symptômes physiques et des malaises peu de temps après sa rencontre avec un objet triangulaire inconnu dans les bois de Rendlesham, dans la nuit du 25 au 26 décembre 1980.
J'ai des résidus.
D'accord, apportez-le au centre pour voir ce que vous avez.
En 2011, son état physique se dégrade brutalement. On lui diagnostique alors un problème cardiaque, une défaillance de la valve mitrale, très surprenante selon ses médecins, pour un homme d'une cinquantaine d'années.
L'aiguille a commencé à s'affoler.
Il est passé de 7 à 10.
Très bien, mettez-le près de cet arbre pour voir ce que ça dit.
Pour Burroughs, l'origine de cette lésion ne fait aucun doute. Elle a été causée par les doses élevées de radioactivité auxquelles il a été exposé cette fameuse nuit. Au terme d'une longue procédure judiciaire et avec le soutien de feu le sénateur John McCain, l'ancien première classe Burroughs a finalement obtenu que la hiérarchie militaire reconnaisse le lien direct entre sa maladie et ses activités au sein de l'armée.
Je ne crois pas avoir besoin de vous dire que vous vous mettez en danger. Pour l'instant, il n'y a aucun signe d'irradiation. On va attendre de voir vos examens sanguins. Mais je vais quand même vous redonner un stimulant.
Pourtant, ni John Burroughs, ni ses médecins n'ont pu avoir accès à son dossier médical, qui est classifié.
C'est la première fois qu'on fait vraiment des progrès.
Bien. On court le risque.
Ce sont finalement les avocats de Burroughs qui ont retrouvé, dans les archives du ministère de la Défense britannique, deux documents prouvant que le site sur lequel il s'était rendu en tant que jeune soldat présentait des niveaux de radioactivité très élevés.
En qui pourrions-nous encore croire ?
Le risque existe pour toutes les institutions, tant politiques que sociales. Donc pour l'armée aussi. Je dirais même surtout pour l'armée. Comment savoir à qui nous avons affaire ? S'agit-il d'amis, d'ennemis ?
Ils ne sont peut-être ni l'un ni l'autre.
Ils viennent peut-être nous étudier comme nous étudions les insectes.
Ce serait la panique si l'information devenait publique.
Pour l'avocat de John Burroughs, Pat Frascogna, les conséquences de cette décision sont évidentes.
Le gouvernement américain reconnaît de facto l'existence des ovnis.
Et il poursuit.
Mon client John Burroughs s'est trouvé très proche de l'ovni lors de cette nuit de décembre. Pendant des années, le gouvernement américain a nié le fait même qu'il se soit passé quelque chose à Rendlesham. Mais la Grande-Bretagne a déclassifié en 2006 une étude sur les ovnis, le projet Condigne. Cette étude conclut que l'événement bien documenté de la forêt de Rendlesham est un cas où l'on peut supposer que plusieurs observateurs ont été probablement exposés aux radiations émises par un PAN, un phénomène aérien non identifié, durant une période d'ailleurs plus longue que la durée normale des observations de PAN. Le gouvernement a donc reconnu le lien direct entre les problèmes de santé de mon client et sa rencontre avec un ovni.
Il y aura inévitablement des fuites. On ne peut pas interdire aux gens de parler.
Tant que nous contrôlerons de près l'information, les fuites ne risqueront pas de nous faire du tort.
Nous pouvons aussi mener une campagne de désinformation parallèlement.
En disant que c'est un canular ?
Tout à fait.
Ou faire circuler les informations exactes par le biais de supports peu crédibles.
La presse à sensation ?
Oui, ou aussi par des aliénés.
Comment ça, des malades mentaux ?
Exactement.
Nuit blanche, couleur 3.
À présent, nous allons partager avec vous nos impressions, nos ressentis personnels sur l'incident de Rendlesham. Entendez par personnel, subjectif, mais toujours intéressé. Pour ma part, ce que je trouve le plus extraordinaire dans cette histoire d'apparition d'OVNI, ce sont les différents rebondissements qu'elle a connus jusqu'à aujourd'hui. Et je suis sûr qu'il y en aura encore d'autres dans les années à venir. Tous ces nouveaux témoignages qui arrivent 10 ans, 20 ans, 30 ans après les faits sont fascinants et rocambolesques, car ils sont quasiment tous contradictoires. 39 ans après les faits, il est très difficile de faire des recoupements, de trouver des pistes solides, si bien qu'au final, tels des randonneurs amateurs, on finit par se perdre dans cette forêt de Rendlesham et de témoignages. Je me sens beaucoup plus proche, en tout cas, de la thèse objet volant non identifié, quoi que ce soit comme objet, que des autres théories proposées jusqu'à encore récemment par des scientifiques, des chercheurs et des ufologues. Pourquoi ? Tout simplement parce que toutes ces propositions ne couvrent pas l'entièreté de l'histoire. Il y a toujours une zone d'ombre dans le sillage de ces propositions qui m'empêche de totalement y adhérer. J'ai aussi du mal à comprendre pourquoi le lieutenant-colonel Holt, qui qui est le second en chef sur la base de Bentwaters et qui a en plus 40 ans à l'époque des faits, aurait joué toute sa carrière et sa réputation sur une simple histoire d'OVNI s'il n'y avait strictement rien, alors que son parcours au sein de l'armée américaine a toujours été irréprochable. Surtout qu'il a envoyé par la suite, prise de risque non négligeable, un rapport au ministère de la Défense britannique. Ces allégations d'OVNI sont donc très préjudiciables pour lui et pour son pays, les États-Unis. Donc j'ai du mal à croire qu'il l'a fait juste pour faire parler de lui. Surtout qu'à l'époque, souvenez-vous, en tout cas jusqu'en 1983, cette histoire reste totalement secrète. Il faut savoir aussi qu'il n'a jamais été limogé par ses supérieurs, même si son chef direct, à l'époque, le colonel Ted Conrad, ne croit absolument pas cette histoire d'OVNI. Voici d'ailleurs ce qu'il déclare le 15 janvier 2010 au chercheur et conférencier anglais David Clark. Le colonel Holt peut croire ce qu'il veut. J'ai déjà contesté dans une certaine mesure ce qu'il a rapporté. Il devrait avoir honte et être gêné par ses allégations, selon laquelle son pays et l'Angleterre ont tous deux conspiré pour tromper leurs citoyens sur cette question. Oui, mais voilà. Contester les faits est une chose, mais apporter la preuve que tout est faux en est une autre. D'ailleurs, à ce sujet, le colonel Ted Conrad ajoute « En dernière analyse, les lumières de la forêt de Rendlesham restent inexpliquées. Je pense qu'elles sont explicables, mais pas avec les informations que nous avons pu recueillir. » Donc, on a là un lieutenant-colonel et des soldats qui mettent en jeu la crédibilité de l'US Air Force, mais aucune de ces personnes n'a été renvoyée, limogée, suspendue. Quant à Peniston et Burroughs, je n'ai pas vu dans les documentaires où ils témoignent des gens heureux, pleins aux as. La preuve est aussi que Burroughs a dû attaquer en justice l'armée américaine pour payer son opération du cœur et qu'il est malade. Dans le documentaire Alien Mysteries, la forêt de Rendlesham, il raconte ce qu'ils ont vécu personnellement depuis l'incident et franchement, ça donne pas envie. Angoisse, psychiatre, problème de santé et comme je viens de le dire en plus, un procès.
Il s'agit d'un ballon sonde. Je reconnais que ce modèle porte un peu à confusion parce qu'il est équipé d'un panneau réfléchissant. Toutefois, je suis un peu surpris qu'un homme aussi expérimenté que le Major ait pu le prendre pour autre chose.
Et toi, Anne, qu'est-ce qui t'a frappé, interloqué dans cette histoire plutôt bizarre ?
L'aspect le plus intéressant de cette histoire, en tout cas selon moi, et ce qui la rend aussi fascinante, c'est évidemment la personnalité des témoins, des militaires, des membres de l'US Air Force, des soldats entraînés. Donc pas vraiment le genre de personnes dont on attend un canular ou qui ont l'habitude de passer pour des petits rigolos. On a donc tendance, au départ, à accorder du crédit à leur déclaration. Et puis, quand on commence à creuser, on a la désagréable impression qu'on essaye un peu de nous enfumer. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, beaucoup de témoins changent de version au fil des années. La version qui a le plus changé est celle de l'un des témoins principaux, James Peniston. Il y a beaucoup de choses dans son témoignage qui appellent à la méfiance. D'abord les incohérences de date dans son carnet, ensuite le carnet en lui-même, et aussi le fait que face à ces incohérences, il invente toujours une nouvelle explication pour tenter de sauver son histoire. Franchement, c'est gênant, et même s'il y a un fond de vérité dans ce qu'il raconte, ça donne envie de le cataloguer dans la catégorie des mythos. Un autre élément qui attise ma méfiance, ce sont les accusations à l'encontre des gouvernements américains et britanniques de vouloir étouffer l'affaire. Si c'était vraiment le cas, comment est-ce qu'on explique que depuis 4 décennies, des militaires à qui on a ordonné de se taire passent leur temps à témoigner librement face caméra ? Tout ça, ça semble pas franchement crédible. On a le sentiment que Peniston et Burroughs ont monté cette histoire en épingle pour en retirer un peu de célébrité, ce qui a d'ailleurs beaucoup agacé d'autres anciens militaires présents sur les lieux à l'époque. Sur la page Facebook animée par Peniston et Burroughs, et qui ne connaît que peu d'activités depuis 2013, on peut lire certaines passes d'armes entre ceux qui sont convaincus d'avoir vu un OVNI et ceux pour qui cet événement était en fait un non-événement. Tout ce battage autour de Peniston et Burroughs, ça éclipse les autres témoignages, ce qui est dommage parce qu'ils semblent pourtant moins sensationnalistes et surtout plus solides. Celui du lieutenant-colonel Holt et des hommes qui l'ont accompagné dans la forêt pendant la deuxième nuit des événements, par exemple. Tous racontent plus ou moins la même chose, ils ont vu un objet lumineux qui ressemble à un œil, qui crache des étincelles et qui nous voit entre les arbres. Quand on lit ça et quand on écoute l'enregistrement audio fait par Holt la nuit du 27 au 28 décembre, on a du mal à adhérer à la thèse du phare. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais rencontré un phare qui crachait des étincelles. Il y aurait donc eu quelque chose dans les bois de Rendlesham en décembre 1980, quelque chose qu'on ne sait toujours pas expliquer et qu'on n'expliquera sans doute jamais. Certains éléments sont troublants, comme l'enregistrement audio. D'autres invitent au scepticisme, comme les soi-disant niveaux élevés de radiation, qui seraient apparemment certes élevés, mais tout à fait courants sur Terre. Au final, j'ai du mal à trancher dans un sens ou dans l'autre. Je m'en remets donc à la conclusion de Brian Dunning, le rédacteur du site skeptoid.com. Voici ce qu'il dit à propos de l'incident de Rendlesham. Des éléments séparés de preuves peu solides ne s'assemblent pas en une seule pièce de preuves robustes. Je pense que c'est exactement le cas dans cette affaire. On a plein d'éléments douteux quant à l'apparition d'un éventuel ovni, mais aucun n'est suffisamment convaincant pour emporter notre raison.
Qui sont-ils ? La composition chimique de leur vaisseau nous est inconnue. La coque n'émet ni déchets, ni gaz, ni radiation. À supposer que les coques communiquent entre elles, elles le font sans être détectées. L'air qui sépare les coques est dépourvu d'émissions soniques ou d'ondes lumineuses. Sont-ils des scientifiques ou des touristes ? S'ils sont des scientifiques, ils ne semblent pas poser énormément de questions.
Voilà donc deux avis assez différents. À vous à présent de vous faire votre propre opinion, et pour aller encore un peu plus loin dans les révélations et informations concernant l'incident de Rendlesham, voici quelques références que nous vous conseillons.
TheRendleshamForestIncident.com,
un site en anglais très complet avec de nombreux documents et témoignages.
DrDavidClark.co.uk,
c'est le site officiel de David Clark, chercheur en journalisme à l'université Sheffield Hallam et spécialiste du droit des médias et des techniques d'investigation. Il y a tout un dossier consacré à l'incident de décembre 1980 avec une interview du colonel Ted Conrad, commandant de la base de Bentwaters et de Woodbridge.
Un autre site, ianreadpass.com.
Ian Readpass est un écrivain, éditeur et conférencier sur l'astronomie et l'espace depuis 1972. Sur son site, il y a tout un dossier avec des photos, des plans, des théories et une retranscription complète de l'enregistrement audio du colonel Holt qui dure un peu plus de 18 minutes. Enfin, sachez que le colonel Holt possède son propre site officiel, charlesholt.com, sur lequel vous trouverez biographies, photographies et une conférence vidéo de plus d'une heure avec sur scène notre retraité de l'armée américaine.
Pour les documentaires vidéo en français, et ils sont rares, il y a « Les ovnis envahissent l'Europe, l'incident de Rendlesham »,« Alien Mysteries, la forêt de Rendlesham » et « Phénomène paranormal, l'ovni de Rendlesham ». Les deux premiers sont disponibles sur YouTube. Concernant les livres, on vous recommande « Encounter in Rendlesham Forest » de Nick Pope. Nick Pope est journaliste, mais surtout un ancien employé du ministère de la Défense britannique. De 1991 à 1994, il a dirigé le bureau ministériel pour la recherche et l'investigation sur le phénomène OVNI.
Pourquoi ont-ils atterri où ils l'ont fait ? Les experts mondiaux les plus distingués butent sur ce point. La théorie la plus plausible est qu'ils ont choisi les endroits du globe les moins frappés par la foudre. Mais il y a des exceptions. La seconde théorie la plus plausible est que Sheena Easton a sorti un tube dans chacun de ses sites dans les années 80. En gros, on n'en sait rien. Comment communique-t-il ?
Et c'est ici que l'on quitte la mystérieuse forêt de Rendlesham. Merci d'avoir suivi avec nous cette lumière dans la nuit. Prochaine nuit blanche, prochaine pleine lune. Ce sera le mardi 12 novembre. Franck Pourpri était à la réalisation de ce podcast. Au micro, Anne Flamand et Michael Marquet.
Pour vous abonner à Nuit Blanche, rendez-vous sur votre application de podcast préférée, iOS ou Android. Vous pouvez aussi nous écouter sur l'application Couleur 3 rubrique émission, sur Deezer et Spotify à la rubrique podcast, sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur rts.ch rubrique radio podcast originaux et sur la chaîne YouTube de Couleur 3.
Merci pour votre fidélité et commentaires et rendez-vous le 12 novembre pour une autre Nuit Blanche. Une autre histoire vraie.
Une histoire à écouter de préférence avec la lumière allumée, parce qu'on ne sait jamais.
Nuit blanche.